L'Évangile nous l'annonce. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau. Celui qui est chargé, je le soulagerai de son fardeau. À celui qui est inquiet, je donnerai le repos. Il nous appartient de déposer notre charge, de la laisser à l'entrée de ce temple pour être présent à ce temps de culte, être là, disponible, attentif, accueillant. Déposons maintenant notre souci. Le seul risque que nous prenons, c'est de ne pas le retrouver en sortant. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, nous arrivons à l'entrée de ce culte avec tout le poids de notre semaine, nos fatigues, nos soucis, nos craintes, nos lassitudes. Nous te remettons tout, prends tout, Seigneur, allège-nous, apaise-nous, désaltère-nous. Amen. Me voici, Seigneur Sauveur. Nous louons Dieu avec le psaume 34. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Et nous poursuivons notre louange avec un deuxième psaume, le psaume 105, dont nous chantons les strophes 1 et 2. 1 et 2 du psaume 105, « Bénissez Dieu, louez sans cesse ». Prenez place. Bienvenue à ce temps de culte qui est aussi le prélude à une assemblée générale du CERA qui aura lieu tout à l'heure. Je vous invite à placer notre vie sous le regard de Dieu. Pour nos vaines tristesses et l'oubli incessant de ta miséricorde, Seigneur, pardonne-nous. Pour nos yeux fascinés au spectacle du mal, pour notre peine à te louer, à rendre grâce, Seigneur, pardonne-nous. Pour nos refus de croire à la puissance de l'amour, pour notre peur de laisser grandir en nous l'espérance, Seigneur, pardonne-nous. Tel que je suis. Dans le livre des psaumes, nous lisons ceci. Parmi ceux qui me connaissent, voici les habitants d'Égypte et de Babylone, de Philistie, de Tyr et d'Éthiopie. C'est là-bas qu'ils sont nés. Mais de Jérusalem, on doit dire, de tous les habitants du monde, tous les habitants du monde sont nés dans cette ville. Le Dieu Très-Haut lui-même l'a bâti. Des hommes et des femmes qui sont nés en Égypte ou à Babylone, au pays des Philistins, à Tyr et en Éthiopie, Dieu dit, tous sont nés à Jérusalem. Nous tous qui sommes rassemblés ce matin avons des origines, des naissances, des histoires différentes. Mais à chacun, chacune d'entre nous, Dieu dit, aujourd'hui tu es né dans ma maison, tu es enfant de mon amour, le fils, la fille de ma bienveillance. Que cette annonce te relève. Elle te donne l'assurance que Dieu est un Père qui ne condamne pas, mais qui pardonne et qui bénit, qui fait grâce et qui sanctifie. Amen. Et nous nous levons pour chanter à toi nos louanges. Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous chantons pour qu'aujourd'hui je sois libre. Prenez place. Pour aujourd'hui, deux des lectures proposées pour ce jour. La première dans la deuxième épître aux Corinthiens et la seconde dans le livre de Josué. Alors, je n'ai pas fait tout à fait attention, il manque un demi-verset. C'est une remarque toponymique, donc ce n'est pas grave, mais je n'aime pas quand on enlève des versets. Donc, ce sera le chapitre 5 de la deuxième aux Corinthiens et le chapitre 5 également de Josué. Avant d'écouter ces lectures, nous prions. Ta parole, notre Dieu, est une lampe allumée, éclairant pas à pas notre chemin. Et les paroles de notre Bible sont comme l'huile dont notre lampe a besoin pour tenir dans les temps de veille. Maintiens-nous vigilants, attentifs, disponibles, de peur que nous ne laissions passer l'heure des visites et des appels que tu nous réserves. Amen.
Frère, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte de ses fautes. Et il a déposé en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui-ci n'a pas connu le péché. Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Josué 5, 9 à 12. En ces jours-là, le Seigneur a dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient les produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan.
Parle-moi. Voilà, c'est fini. Après, excusez-moi, voilà, c'est fini. Plus de manne, plus de nourriture gratuite où il suffisait de se baisser pour ramasser. Il va falloir se débrouiller. Maintenant, il va falloir se prendre en main. Fini la nourriture gratuite, gracieuse qui tombe du ciel. C'est fini. Et vous savez quoi? C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Le peuple d'Israël est parvenu là où Dieu voulait qu'il arrive. Maintenant, il lui, pour ainsi dire, lâche la main. Il y a des parents qui veulent garder leur enfant sous leur coupe. Il existe des parents qui vivent mal que leurs enfants prennent leur envol. Il y a aussi des États, des sociétés qui veulent garder leurs citoyens comme des sujets mineurs, dépendant des prébendes, de l'argent, de la nourriture qu'ils leur distribuent. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu veut que ses enfants prennent leur envol, qu'ils se prennent en main, qu'ils vivent dans la liberté et la responsabilité. Bien sûr, pour vivre du pays, pour reprendre l'expression biblique, vivre du pays, c'est quelque chose qui se trouve entre le don et le travail, la gratuité et le salaire, la grâce et le mérite. Bien sûr, la terre donne des fruits, mais il faut la cultiver, il faut en prendre soin. Le peuple d'Israël, dans ce pays où ruissellent le lait et le miel, devra se prendre en main. Il est maintenant responsable de son destin, même si Dieu continue de veiller sur lui. Le livre de Josué n'est pas le livre biblique qu'on lit le plus. Non pas qu'il soit difficile à lire ou peu intéressant, mais parce qu'il est rempli de fureur et de batailles, de meurtres et de massacres. Alors, on préfère passer par-dessus, discrètement, légèrement, comme chat sur braise, et venir sur des textes plus consensuels. C'est compréhensible, mais c'est dommage. Parce qu'il y a un enseignement à tirer, y compris de ces textes-là. Dans la suite de notre récit, après cette première Pâque célébrée en Terre promise, il y a le célèbre combat contre la ville de Jéricho, avec son histoire de trompettes qui tournent autour de la ville, des murailles qui s'effondrent, et le massacre des habitants de la ville. Toujours est-il que les conflits, les guerres, les massacres et les autres horreurs qui les accompagnent font partie de l'histoire humaine. Depuis que l'homme écrit l'histoire, il bataille à cœur joie. Cette constatation, toute navrante qu'elle soit, est à retenir car elle rejoint, ou plutôt elle nécessite, l'action de Dieu. Pour résumer, ce que j'ai dit sur l'extrait du livre de Josué, c'est qu'une fois arrivé là où Dieu avait projeté de le mener, le peuple juif doit se prendre en main. Eh bien, c'est quelque chose du même ordre que nous dit l'apôtre dans la deuxième épître aux chrétiens de Corinthe. Par l'action, la prédication, la mort et la résurrection de Jésus, le Christ, nous sommes arrivés là où Dieu voulait nous mener. À la réconciliation et au pardon. Et c'est là aussi une excellente et bonne nouvelle. Mais une fois arrivés là, nous avons nous aussi à nous prendre en main, non pas pour mériter ce pardon qui nous est donné, sans mérite de notre part, mais pour le porter, pour le faire fructifier. L'apôtre nous dit que nous sommes ambassadeur du Christ et ministre de la réconciliation. C'est aussi une merveilleuse nouvelle, mais c'est surtout une grande responsabilité parmi toutes celles qui existent. Et en quoi consiste donc cette grande responsabilité? Avant tout à vivre ce pardon, cette réconciliation dans notre propre vie. Tout comme l'histoire humaine, notre propre existence est traversée de conflits, de disputes, j'espère pas de coups de poing, mais de coups de sang sans doute. C'est déplorable, mais c'est un fait. Et finalement, n'est-ce pas aussi pour ça qu'existe le pardon et la réconciliation? Cependant, il ne suffit pas de pardonner et de se réconcilier. Notre pratique de ces deux injonctions divines doit être aussi le témoignage, un témoignage vers l'extérieur. Notre société, et au-delà, notre monde, est fracturé en factions, groupes, sous-groupes, chapelles, qu'on prétend, qu'on affirme, irréconciliables. Nous sommes invités à témoigner qu'il n'en est rien. Le pardon et la réconciliation sont toujours possibles. Non seulement ils sont possibles, toujours possibles, mais c'est en eux que réside la vie offerte par Dieu dans le Christ Jésus. Nous pouvons objecter avec raison qu'il suffit d'écouter les informations, qu'elles soient internationales ou judiciaires, pour découvrir des actes odieux qui paraissent difficilement pardonnables, voire carrément impardonnables. Or, selon les évangiles, il n'y a qu'une seule chose, une seule chose est impardonnable, le péché contre l'Esprit Saint. Nous avons lu ce texte il y a quelques semaines. D'accord. Mais les tortures, les viols et autres actes de barbarie relèvent, au sens commun, de l'impardonnable, non ? Il ne sera pas nécessaire de me forcer beaucoup la main pour que je concède le caractère impardonnable de tels actes. Mais la question que la foi chrétienne nous pose n'est-elle pas justement celle-là ? Y a-t-il autre chose à pardonner que l'impardonnable ? Et pour parodier une phrase du Christ, si nous ne pardonnons que ce qui est pardonnable, que faisons-nous là d'extraordinaire ? Les païens en font tout autant. Nous sommes enjoints de pardonner l'impardonnable, à témoigner que l'impardonnable peut être pardonné, l'irréconciliable peut être irréconcilié. Bien sûr, le pardon dont il est question ici n'est pas un pardon par-dessus la jambe, qu'on distribue comme ça sans y penser, comme on jette du pain à un canard. Il ne faut pas jeter du pain au canard. Même en général s'il est encore vivant. N'est-ce pas trop demander aux victimes que d'exiger d'elles de pardonner l'impardonnable ? Ah, parce que c'est facile sur un plan théorique d'affirmer de telles choses, d'un point de vue purement théologique et spirituel, mais tellement extérieur et surplombant. Mais lorsqu'on est soi-même saisi par la souffrance, peut-on le faire ? En est-on seulement capable ? On est en droit d'en douter. Or, je suis convaincu que c'est ce qui nous est demandé. Mais je suis persuadé également que l'Évangile, la bonne nouvelle, n'est pas une contrainte sur celui qui souffre, une violence faite aux victimes. Il doit y avoir autre chose. Me revient alors, lorsque je pense à pardonner l'impardonnable, un autre passage biblique, celui de la crucifixion, selon Luc. Jésus dit « Je leur pardonne car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Non, c'est pas ça. Il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » On peut imaginer bien sûr que crucifier un homme, qui plus est le Fils de Dieu, est un péché contre Dieu le Père. Mais on peut aussi comprendre que Jésus remet cette tâche, ou plutôt demande cette force de pardon à son Père, car il n'en est pas lui-même capable. À l'impossible, nul n'est tenu. Il demande finalement l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, qui permet de pardonner. Donc, finalement, le mystérieux péché contre le Saint-Esprit, c'est justement de penser d'une part qu'on ne peut pas être pardonné, et d'autre part qu'on n'est pas capable de pardonner, qu'on ne peut pas être rendu capable de pardonner, même l'impardonnable. C'est refuser ce qui est la vie même de Dieu, le pardon et la réconciliation. Oh, évidemment, je ne suis pas ici en train de vouloir mettre une pression, une culpabilité supplémentaire sur les victimes. Le pardon donné et reçu, aussi bien donné que reçu, est une grâce. C'est le don même de la vie. Ma compréhension est que de ne pas être au bénéfice du pardon reçu et donné, c'est passer à côté de la vie véritable, pleine et libre. c'est en soi une punition et non une menace d'une punition. Si tu ne pardonnes pas, tu seras puni, non. Ce n'est pas ça. Mais cela ne se fait pas sans l'aide de Dieu et sans demander cette aide. Car ce n'est que par la puissance de l'Esprit Saint, ce n'est que si la puissance de l'Esprit Saint vient au soutien, au secours de notre propre volonté, qu'il nous sera possible de pardonner l'impardonnable. À l'impossible, seul Dieu est tenu. Et comme j'aime à le répéter, le pardon, a fortiori quand il s'agit de pardonner l'impardonnable, n'est pas une décision qu'on prend à la légère, et encore moins qu'on peut exiger de vous. C'est un combat spirituel contre les forces de mort, un combat contre Dieu et contre nous-mêmes. C'est une lutte avec et contre Dieu, à l'instar de Jacob, que ce combat fera Israël. Nous pouvons à peine pardonner les choses simples de nous-mêmes. Nous sommes rendus capables par Dieu de pardonner. Nous ne pouvons exiger des autres ce pardon impossible aux yeux de tous. Mais nous sommes appelés à témoigner que Dieu rend l'impossible possible. Nous sommes en Christ des créatures nouvelles. Nous sommes les témoins d'un monde nouveau, qui n'est pas celui dont parlent les hommes politiques ou les idéologues. Nous sommes les ambassadeurs d'un monde où tout pardon et toute réconciliation sont non seulement possibles, mais effectifs. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 33-24, les strophes 1, 3 et 4, page 424. 424, quel sauveur merveilleux. Nous restons debout et nous disons ensemble la confession de foi numéro 6, celle que vous trouverez à la fin de votre... Alléluia. Jésus de Nazareth nous a révélé Dieu, le Seigneur tout amour. À sa suite, j'appelle Père celui qui est le Créateur du monde et le Sauveur de tout ce qui vit. Son Esprit nous rassemble aujourd'hui dans la louange, nous éclaire par l'Évangile, nous met en route dans le service de nos frères et sœurs et nous conduit vers le royaume de Dieu. Amen. Heureux qui se confie en toi. Prenez place. C'est maintenant le temps du don, le moment de l'offrande. Seigneur, voici l'offrande et avec elle nous élevons nos mains pour te rendre grâce. Apprends-nous à la partager avec ceux que tu nous as confiés, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces et nouvelles. Alors je profite que Pierre fasse le trajet pour vous rappeler qu'il y a le week-end Bible et Famille, mais c'est pas là. Le week-end Bible et Famille du 2 au 4 mai dans la Drôme à Chamaloc. Donc c'est quelque chose d'assez sympathique qui doit se faire sur deux générations. Pas forcément deux générations successives. C'est-à-dire que ça peut être des grands-parents avec des petits-enfants, des parents avec des enfants, des grands-parents avec des parents. Bon, c'est... Enfin bref, il y a encore de la place. En fait, pour être exact, ils cherchent même du monde, donc vous serez les bienvenus. Et c'est vraiment un temps très sympathique.
Bonjour à tous, merci de votre présence. Merci à Christine qui nous a accueillis ce matin, à Claude-Françoise qui nous a réjouis avec la musique, Vincent pour la prédication, et puis Daniel qui nous a apporté des belles fleurs. Juste après le culte, il y a l'Assemblée Générale de l'Entraide. Mardi matin à 7h, il y a la prière matinale. Et le soir, à 19h15, la chorale. Et le mercredi, la prière à 18h. Le week-end prochain, il y a un week-end caté au niveau du consistoire, donc pour tous les jeunes qui sont catés au niveau du consistoire. Bible en famille, on en a parlé. Et enfin, il y a toute une série de concerts. Vous avez peut-être vu, il y a des affiches dans le hall. Le 5 avril, je le signale parce qu'il y a un membre de notre paroisse qui chante dedans, c'est David, au Brécy. Sinon, le 12 avril à 20h, c'est un concert ici avec la chorale de l'église et une chorale d'Evian.
Et éphémère. Et le groupe vocal éphémère.
Et le groupe vocal éphémère. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle concert à trois, là. Et puis, le dimanche, à 18h30, au cas où certains auraient raté le concert de vendredi de Happy Back, il y a Accord à Dissonance qui redonne ce concert à Verrier-du-Lac à 18h. Voilà.
J'y ai encore, si tu permets, le 13 avril, à 15h, au temple de Tonon-les-Bains, Obad pour un orgue, ils essaient d'acheter un orgue, donc ils font... des concerts collecte de fonds.
Oui. La quatrième conférence de
protestants. Oui, alors tu peux donner les la quatrième machin et qui a lieu, qui s'écoute quand alors? Vas-y, c'est bon. Donnez les informations complètes.
Bonjour à celles et à ceux que je n'ai pas salués. Donc quatrième conférence du carême protestant. Diffusé sur les ondes de France Culture à 16h, mais qu'on peut récupérer soit en podcast, en téléchargement, qu'on peut écouter. Donc ça, c'est pendant une année, mais c'est écoutable, réécoutable à vie. D'accord ? Et donc, cette année, c'est la pasteur Marie-Pierre Courneau de l'Église protestante unie de Montparnasse, Plaisance, voilà, qui présente le thème. C'est extrêmement intéressant. C'est Ruth, un petit livre, mais qui est très très riche. Voilà, et très surprenant parfois. Alors, les juifs disent plutôt Ruth, et c'est vrai que parfois c'est très déroutant.
Je vous invite à vous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, envoie-moi ton esprit de lumière. Apprends-moi à marcher sous un morceau de lune autant qu'en plein soleil. Apprends-moi à regarder devant, à ne pas confondre ce qui était hier avec ce qui sera demain. Envoie-moi, Seigneur, ton esprit de sagesse. Apprends-moi à créer avec toi chaque jour du neuf, à ne pas cueillir des fleurs fanées sur un sentier usé. Apprends-moi devant une paroi à repérer la petite prise qui ouvre le passage. Envoie-moi, Seigneur, ton esprit de force, que mes bras alourdis par l'échec retrouvent l'énergie de planter 1000 arbustes pour un monde nouveau. C'est avec confiance que nous te disons la prière de tes enfants, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lorsque l'ange du Seigneur va voir Gédéon pour lui demander de délivrer Israël, il lui dit « Va avec la force que tu as ». C'est comme le fils d'un roi qui est séparé de son père par une distance de 100 jours de marche. Ses amis lui disent « Retourne auprès de ton père ». Mais il leur répond « Je ne peux pas, je n'en ai pas la force ». Alors son père lui envoie dire « Fais comme tu peux, marche selon ta force. Et moi je viendrai, je ferai le reste du chemin pour arriver jusqu'à toi. Va avec la force que tu as, deviens un témoin de ta foi. Ne regarde pas les épreuves de demain à partir des seules forces de tes mains. Dieu renouvelle sa grâce chaque matin, il calme tes angoisses, partage ton chemin. » Je vous invite à vous lever. Allons et marchons, que le monde voie votre lumière, qu'il entende notre parole, qu'il ressente notre joie. Car nous sommes des témoins du Christ ressuscité, celui qui nous fait vivre de sa vie et qui nous guérit de nos lèpres intérieures. Que la paix vous accompagne jour après jour. Amen. La paix du Seigneur. Bon dimanche et bonne assemblée générale du Sérin. Je reste. Hein, mais...